C'est un duo d'artistes formé en 2020 par Romy Texier, né en 1995 à San Francisco, et Valentin Vibinet, né en 1996 à Paris. Ils produisent des œuvres qui bousculent les frontières entre la sculpture, le mobilier et le décor. De ses quatre mains, le duo conçoit des sculptures en béton et transforme ce matériau solide et inerte en un terreau fertile où s'épanouit une ornementation d'inspiration organique. Leur création, minutieusement assemblée et disposée en fonction de chaque espace, se joue des objets qui constituent les topographies de notre quotidien. Le duo construit des espaces à la frontière du rêve et du simulacre. Au sein de ces scènes désertées et pétrifiées, se dessine une nouvelle grammaire de formes qui, par strates, façonne une lecture du temps. Power Outlet. Les Power Outlets sont des sculptures qui imitent des prises de courant domestiques. Chaque prise renferme un symbole original. Les symboles sont tous issus de la même construction. 12 éléments pour les 12 heures de l'horloge. Les Power Outlets sont des marqueurs temporels, des micro-vortex qui marquent des points de passage de l'intérieur avec l'extérieur. Postgebrüder Tonnet, numéro 7028, Rocking Chair. Entre la vue éclatée, le mode d'emploi, la dissection et la planche entomologique, Postgebrüder Tonnet, numéro 7028, Rocking Chair est une chaise à bascule d'inspiration Tonnet mise à plat sur la surface du mur. Entre construction et destruction, l'objet est au seuil, sur le point de basculement entre deux états. Alors que le passé qui semblait révolu est ici encore existant, le futur est lui-même déjà présent. À la lisière de l'achèvement comme du commencement, l'œuvre est liée au passage, à la transformation. Fengaris vulgaris. L'œuvre fait partie de la série One and One is Three, une série de bas-reliefs bicomposites béton et céramique. Ces planches botaniques à caractère diachronique illustrent comment deux vies codépendantes se synchronisent autour d'un seul et même cycle, au point de ne former qu'un seul et même corps. Ici, ce bas-relief représente la relation de codépendance qui lie le thym à l'azuré du serpolet, un papillon qui pond exclusivement sur le thym et l'origan. De sa racine à sa feuille, le thym est représentatif du cycle de vie de l'insecte. Alors que le papillon pollinise la fleur, ses larves, elles, se nourrissent des pétales. Se laissant tomber au sol, elles se font passer pour des fourmis qui les accueillent et les nourrissent au travers des ouvrières jusqu'à terme du développement de la chrysalide. Dust to dust. À partir des similitudes constatées entre l'industrie agroalimentaire du maïs et celle du ciment, ils ont imaginé une série de pièces autour d'un répertoire de formes inspiré de ce champ lexical commun. Dust to dust est un élément d'un paysage inspiré de ceux de l'Isère, région où les deux industries se côtoient, ici transformées en diorama. Cette sculpture est un amalgame entre la meule à broyer le grain de maïs, la meule du broyeur à cru pour ciment, et enfin la meule des champs. Chaque rayon est une étape de vie de la plante. Dust to dust est une représentation de la vie cyclique du plant de maïs, qui germe et se déploie au gré des rayons et du temps qui passe, tel un cycle infini d'improductivité. Five millstones in the fields, and yet nothing to grind, landscape sequence. En plus d'être une industrie massive comme celle du ciment, la culture du maïs présente des similitudes avec le ciment dans son processus de fabrication. Les techniques de fabrication du ciment empruntent directement à des procédés de transformation des céréales en farine. Des meules rotatives géantes sont utilisées pour broyer le calcaire, l'argile et le sable, en une poussière appelée farine crue, qui est ensuite stockée dans de grands silos. Par ailleurs, la température de 1450 degrés est celle qui doit être atteinte pour former le clinker lors de la fabrication du ciment. Un mélange finement broyé de calcaire, d'argile et de sable, soumis à l'effet de la chaleur puis brusquement refroidi. Mais cette température correspond également à la somme de température totale à laquelle doit être exposé un plant de maïs avant d'arriver à maturation. À partir des similitudes constatées entre l'industrie agroalimentaire du maïs et celle du ciment, ils ont imaginé une série d'œuvres inspirées de ce champ lexical commun, celui de la meule et du silo, de la farine et de la poussière. Ici, on observe une séquence en saccade d'un paysage aride composé de sillons creux sur lesquels reposent d'immenses meules à broyer. À travers la vue fugace de la fenêtre d'un moyen de transport, l'œil synthétise les rangées infinies de maïs en blocs qui semblent calibrés industriellement.